Chapitre 8. Plus triste encore. Quand Sébastien pénétra dans la cour, il trouva les domestiques entourant le messager afin de recueillir quelques détails sur la mort de leur maître. La lettre de Fabiola que Torquatus lui avait remise produisit sur le patricien l'effet attendu. Il vint passer quelques jours près de sa fille pendant son séjour à sa ville de Campanie avant son départ pour l'Asie. Fabius témoigna à sa fille un redoublement d'affection, et quand ils se séparèrent, ils semblaient avoir l'un et l'autre un douloureux pressentiment qu'ils se disaient un éternel adieu. Cette triste impression se dissipa quand il fut à Baïa, où une troupe de joyeux convives l'attendait avec impatience et où il se croyait obligé de rester pendant qu'on préparait sa galère, pourvu des meilleurs vins et des produits les plus raffinés de la Campanie. Fabius se laissa aller, comme de coutume, à son goût excessif pour la bonne chère, et en sortant du bain après un souper joyeux, il fut pris d'un frisson. 24 heures après, il était mort. Il laissait ses grandes richesses à sa fille unique. Enfin, son corps était embaumé au moment du départ du courrier, et sa galère allait la porter à Ostie. En écoutant ce triste récit, Sébastien se reprocha sa longue conversation sur la mort avec Fabiola et il quitta cette maison, l'âme remplie de pensées de deuil. Les premières angoisses de Fabiola, tombées à l'improviste dans cet abîme de douleur, furent affreuses. Elle ne se rendait plus compte de ce qui se passait autour d'elle. Mais bientôt la jeunesse, avec sa force et sa sève, prit le dessus. La jeune fille regarda la vie qui lui apparaissait maintenant comme une mer sans fin aux vagues noires et houleuses sur laquelle flottait un seul être vivant. Cet être, c'était elle. Son malheur lui semblait immense, inexprimable. Elle referma les yeux alors en frissonnant d'effroi jusqu'à ce que l'insomnie de la douleur vint encore éveiller son esprit. Elle passa de longues heures dans ces alternatives pendant lesquelles la vie et la mort se livraient un combat en elle. Ses serviteurs alarmés demandaient en vain à la médecine des ressources pour calmer sa fièvre, ses convulsions de désespoir. Enfin, elle se souleva sur sa couche, pâle, les yeux hagards et sans larmes, et repoussa doucement la main qui lui présentait un breuvage calmant. Elle resta longtemps dans cet état de stupeur mortelle qui dominait tout son être. Ses pupilles dilatées semblaient presque insensibles à la lumière et l'on exprima la crainte que son esprit demeurât égaré. Le médecin qui avait été appelé se pencha vers elle et lui fit cette question à haute voix. « Fabiola, vous souvenez-vous que votre père est mort ?» Elle tressaillit alors, retomba sur sa couche et un flot de larmes brûlantes s'échappant de ses yeux vint soulager son âme et sa tête. Elle parla de son père, l'appela au milieu de ses sanglots et, s'adressant à lui dans un langage incohérent et égaré, lui dit les choses les plus affectueuses. Parfois, elle semblait le croire encore vivant, puis elle se souvenait qu'il n'était plus. Alors elle pleurait et gémissait jusqu'à ce que le sommeil, appelé par la fatigue, vint remplacer les larmes en reposant son esprit et rafraîchissant son corps. Euphrosyne et Syrah seules la veillèrent. La première disait de temps en temps quelques lieux communs des consolations païennes. Elle rappelait que Fabius était un bon maître, un honnête homme, un père aimant. Mais la chrétienne restait ordinairement silencieuse. Elle disait seulement de douces et bonnes paroles à sa maîtresse, la servante avec une délicate activité que la jeune fille remarquait malgré sa douleur. Que pouvait-elle faire de plus, excepté de prier? Elle n'avait qu'un espoir, c'est qu'une grâce nouvelle était enveloppée dans cette affliction, comme la fleur dans son germe, et qu'un ange brillant de lumière descendrait du nuage sombre qui environnait la jeune patricienne, frappée d'un si rude coup. Quand sa douleur fut plus calme, elle donna la place à la réflexion qui vint à Fabiola sous la forme d'une curiosité inquiète. Qu'était devenu son père? Où avait-il été? Avait-il pénétré le mystère d'une autre vie ou était-il simplement rentré dans le néant? Sa vie avait-elle été examinée par cet œil tout-puissant qui pénétrait l'invisible et avait-il entendu le jugement de ce témoin des actions des hommes dont Syrah et Sébastien lui avaient parlé? C'était impossible. Alors, où était-il? Qu'était-il devenu? Elle frissonna à cette pensée et s'efforça de la chasser de son esprit. Oh, si un rayon d'une lumière inconnue avait pu pénétrer jusqu'au-delà de la tombe pour révéler ses secrets à la jeune fille! La poésie avait prétendu éclairer le mystère, elle s'était vantée de tout découvrir. Mais en vérité, elle était seulement restée à la porte, comme un génie à la tête penchée et à la torche renversée. Alors la science avait pénétré plus loin. Mais bientôt, elle avait été chassée de ce lieu mystérieux où ses ailes se ternissaient et où l'air fétide de la tombe éteignait son flambeau, car tout ce qu'elle avait découvert, c'était un charnier. La philosophie aussi était venue rôder autour du tombeau, et, jetant un regard effrayé, elle avait reculé, en se contentant de disserter à son retour, et avait déclaré, en levant les épaules, que le problème ne pouvait être résolu et que le mystère demeurait caché. Si une science plus haute avait pu pénétrer cette obscurité et satisfaire la douloureuse curiosité de la jeune fille. Pendant que ses idées environnaient comme d'une sombre nuit le cœur de Fabiola, son esclave jouissait de la vision lumineuse, revêtue d'une forme mortelle, transparente et radieuse, qui se levait de la tombe comme d'un alambic où elle a laissé la partie matérielle de son être, sans altérer l'essence spirituelle de sa nature. Libre et spiritualisée, belle et glorieuse, l'âme s'élance du lit même de la corruption. Ces êtres transfigurés s'élèvent de la terre ou de la mer, du cimetière où des vapeurs malsaines s'amoncellent. Ces visions jaillissent des autels consacrés où dorment les martyrs, du bosquet solitaire où le juste a péri assassiné, des champs de bataille où les Israélites combattaient pour Dieu. Puis, comme des fontaines aux jets de cristal, semblables aux phares lumineux qui brillent de la terre jusqu'au ciel, ces visions deviennent innombrables, elles repeuplent la création d'êtres prédestinés à une vie heureuse et immortelle. Et comment l'esclave savait-elle toutes ces choses? C'est qu'un être plus grand et plus puissant que les poètes, les sages ou les sophistes avait le premier accompli cette épreuve. Il est descendu dans la couche obscure de la mort. Il l'a béni comme il avait béni le berceau et consacré l'enfance. Il a fait de la mort une chose sainte et du tombeau un sanctuaire. Il y est entré dans l'obscurité de la nuit et il en est sorti resplendissant de la beauté du matin. On l'y a déposé enveloppé de parfums et d'aromates. Il s'est réveillé de ce sommeil, tout revêtu de son incorruptibilité. Et depuis ce jour, la tombe a cessé d'être pour les chrétiens un objet d'épouvante, car elle est restée telle que le Christ l'avait faite, le sillon dans lequel doit reposer la semence de l'immortalité. Il n'avait pas encore eu le temps de parler de ces choses à Fabiola. Elle demeurait désolée, comme ceux qui n'ont plus d'espoir. Les jours succédaient aux jours, et elle continuait ses sombres méditations sur le mystère de la mort, jusqu'à ce que d'autres préoccupations vinssent l'arracher à ses tristes pensées. Le corps de Fabius arriva et on lui fit des funérailles telles que Rome en voyait rarement. On lui rendit de grands honneurs, le cortège suivit les funérailles à la lumière des torches qui portaient l'effigie en cire des ancêtres, un grand bûcher funéraire construit de bois aromatique et embaumé des plus riches parfums de l'Arabie avait été élevé. Mais pour Fabiola, tout fut fini quand elle eut fait recueillir quelques poignées d'ossements calcinés qu'on déposa dans une urne d'albâtre pour la placer ensuite dans une niche du sépulcre de famille après avoir tracé le nom de Fabius sur l'une funéraire. Calpurnius prononça l'éloge du défunt et, selon les idées à la mode du temps, il établit un contraste entre les vertus du citoyen intelligent et hospitalier qu'il regrettait et la fausse morale de ces hommes qu'on appelait chrétiens, qui jeûnaient et priaient toute la journée, insinuaient leurs dangereux principes dans les nobles familles et répandaient la déloyauté et l'immoralité dans toutes les classes. S'il y avait une seconde vie, question sur laquelle les philosophes n'avaient pu s'entendre, Fabius, on en pouvait douter, était étendu maintenant sur les vertes pelouses de l'Élysée, buvant à longs traits le nectar des dieux. « Oh !» dit en pleurant le vieil hypocrite, « qui n'aurait pas voulu changer un gobelet de vin de Falerne pour une amphore de nectar? Puissent les dieux hâter le jour où moi, son humble client, j'irai le rejoindre dans son doux repos et partager ses sobres banquets. » Un immense applaudissement accueillit ce noble souhait. Aux soins des funérailles succéda pour Fabiola une autre occupation. Il lui fallait appliquer son esprit sérieux à examiner et à terminer les affaires compliquées de son père. Dans cette étude, elle fut souvent peinée de découvrir ce qui lui semblait de l'injustice, de la fraude, de la mauvaise foi, et cela dans les affaires de celui que le monde proclamait le plus honnête et le plus libéral des hommes. Quelques semaines plus tard, toute vêtue de deuil, Fabiola alla faire des visites à ses amis. Sa première visite fut pour sa cousine Agnès.